Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est Vincent M qui redémarre.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
63 jours de grève à Radio France suite à l'annonce d'un plan d'économie. France Télévisions, qui poursuit son plan de départ, ferme deux chaînes, protège encore ses investissements dans le documentaire, la fiction, l'animation. Mais pour combien de temps? À quoi ressemblera la holding qui chapeautera vos radios et vos télés publiques? Comment sera-t-elle financée? La future loi de refonte de l'audiovisuel ne le dit pas, ne le prévoit pas. Interview ce matin du ministre de la Culture. Comment, face à l'arrivée en tir groupé des géants américains du son et de l'image, donner les moyens à l'audiovisuel français de s'imposer. Du côté des chaînes privées, comme des chaînes publiques, l'argent manque pour rivaliser avec des acteurs riches, mais riches à milliards.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Franck Riester.
Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour Monsieur le Ministre de la Culture. 63 jours, pardonnez-moi, de grève à Radio France, soit le plus long conflit de toute l'histoire de la radio. Vous ne vous êtes pas ou si peu exprimé. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Ministre, que les personnels de Radio France se soient sentis, invisibles aux yeux de leur tutelle?
Non, je ne juge pas leur ressenti, bien évidemment, mais je ne le comprends pas.
Mais est-ce que vous comprenez?
Non, vous savez, je suis, et ils me connaissent pour certains d'entre eux depuis longtemps. Depuis 2007, je suis investi à la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. En tant que député. Mm-hmm. J'ai été membre de la commission COPE sur l'avenir de l'audiovisuel, et notamment l'audiovisuel public.
Oui.
J'ai travaillé dans le débat sur l'audiovisuel, le projet de loi qui a été débattu à l'Assemblée nationale en 2009. Mm-hmm. J'ai été, en tant que maire de Coumiers, le maire à permettre à son territoire d'être le premier à passer à la télévision tout numérique et à la radio, et j'espère demain à la radio numérique, puisque je suis un des grands défenseurs de la radio numérique terrestre. Ça fait donc 12 ans que je travaille sur ces questions-là. Depuis longtemps, je me suis exprimé pour défendre l'audiovisuel public, parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin qu'en ce moment d'audiovisuel public. Je me suis battu pour que France Info, la chaîne d'information en continu, existe. Je me suis battu pour qu'on puisse continuer d'avoir un financement pérenne de l'audiovisuel public. Et je me suis battu, et j'ai été entendu par le président de la République et le Premier ministre, pour qu'on puisse créer dans la loi audiovisuelle un groupe public de l'audiovisuel public pour tenir compte de la révolution numérique. Et donc je suis un grand défenseur de l'audiovisuel public depuis des années.
Je parle de 63 jours de conflit social.
Oui, je me suis exprimé à multiples reprises sur cette question-là pour dire que cette trajectoire qui a été décidée avant que je ne devienne ministre, mais que j'assume totalement, d'efforts demandés à l'audiovisuel public en 4 ans, d'arriver à une économie de 190 millions d'euros pour tout l'audiovisuel public sur les 3,7 milliards payés par nos compatriotes pour l'audiovisuel public, me paraît un effort qu'on demande à nombreuses institutions publiques, parce qu'on souhaite rétablir les comptes publics de la nation, et donc chacun doit faire un petit effort, et que cet effort, certes, quand on a à le produire en interne, donc, comme par exemple chez Radio France, c'est toujours difficile, mais qu'il me semble qu'à l'aune de ce budget de 3,7 milliards, c'est un effort soutenable. Et que d'autre part, je soutiens la direction, qui est en charge, avec les organisations syndicales, d'organiser la prise en compte de cet effort-là, mais aussi et surtout, je dirais, la prise en compte de la révolution numérique pour adapter l'organisation interne, pour être encore plus efficace, pour toucher le maximum de public. Et donc, je me suis exprimé à nombreuses reprises, Sonia De Villers. Je me suis exprimé sur différentes stations, que ce soit l'audiovisuel public comme du privé, dans des émissions diverses et variées. Je me suis exprimé en comité technique ministériel le 20 décembre. Je me suis exprimé à l'Assemblée nationale.
Simplement, monsieur le ministre, si vous voulez, de personnel très nombreux, grévistes ou non grévistes, d'auditeurs qui ont eu la sensation d'être invisibles et peu entendus de la part de leur tutelle. Venons-en justement à ce qui a suscité ce conflit social, parce que il est extrêmement important, en effet. Commençons donc par l'audiovisuel public, parce que dans la loi qui est en gestation, là, peut-être un mot d'ailleurs sur cette loi. Vous savez, monsieur le ministre, que l'Assemblée nationale va fermer pour travaux. Il n'y aura pas de session extraordinaire cet été. Il y aura une discussion sur les retraites qui risque fort de déborder. Est-ce que vous pensez vraiment que là, entre les deux, vous allez réussir à caser le vote de cette loi?
Oui, parce qu'on attaque la semaine prochaine, je suis en audition à la commission des affaires étrangères. Ensuite, la semaine suivante, fin février, je suis en audition à la commission des affaires culturelles et on attaque la discussion dans l'hémicycle le 30 mars. À l'Assemblée nationale, ça va durer 2 semaines. Ensuite, fin mai...
Vous êtes sûr que les retraites, ce sera fini à ce moment-là?
Je pense.
Ça va être très serré.
Ça va être serré, je pense. Ouais. Et ensuite, discussion à partir de fin mai, a priori, au Sénat. Ouais. Et ensuite, il y aura une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et j'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat trouveront un accord sur ce texte. Et à ce moment-là, il sera voté avant l'été. C'est l'objectif que je me suis fixé.
Alors, voilà, cette loi, vous la voulez ambitieuse. Ambitieuse pour les entreprises françaises de l'audiovisuel face à, je l'ai dit, à l'arrivée tonitruante des géants américains. Et pour l'instant, ce ne sont que des géants américains, mais d'autres géants se préparent ailleurs dans le monde pour arriver sur nos territoires. Évidemment, c'est là que je voudrais revenir sur les chiffres dont vous venez de parler, monsieur le ministre. Ça commence par 4 ans d'économie jusqu'en 2022. Après, d'ailleurs, on n'a plus de trajectoire et 2022, ça arrive vraiment très très vite. La question, elle est toute simple. Les économies, d'un point de vue comptable, elles sont évidemment toujours soutenables, et encore pas forcément, mais on peut toujours les justifier. La vraie question, c'est pourquoi on sous-investit en France face à des géants qui, je l'ai dit, eux, investissent en dizaines de milliards.
Mais j'ai pas le sentiment qu'on sous-investisse.
Alors expliquez.
Avec 3,7 milliards, peut-être demain un peu plus de 3,5 milliards, puisqu'il faut tenir compte de cette demande de réduction de 190 millions d'euros à l'aune, au niveau de 2022, on a, il nous semble, un budget qui permet à la fois de gérer et d'assurer le quotidien des missions de service public et en même temps de s'inscrire dans la vie.
Vraiment ?
Oui, je le pense. Mm-hmm. Et si jamais il y a des investissements spécifiques importants, l'État est là. Regardez ce qui concerne la maison de la radio. Mm-hmm. Il y avait des travaux qui devaient être finis pour clore la séquence très longue de restauration de la maison de la radio. Oui. Il y a un peu plus de 43 millions d'euros nécessaires. L'État, en plus de la trajectoire financière dont on parlait, va remettre, ce qui n'était pas prévu, 43 millions d'euros pour accompagner Radio France dans sa modernisation, là en l'occurrence immobilière. Mm-hmm. Donc ça veut dire que l'État est au rendez-vous des besoins de financement, d'investissement dans l'audiovisuel
et
public.
Et les besoins d'investissement urgents et colossaux dans le numérique, pourquoi est-ce que l'État, pour le coup, ne fournit pas ces moyens-là?
Mais écoutez, c'est là où je ne suis pas d'accord.
D'accord.
Je pense que les Français, par le paiement de la redevance, et donc les pouvoirs publics, dans la décision de créer cette redevance et de la pérenniser, financent
déjà suffisamment
à une hauteur importante l'audiovisuel public, et c'est très bien. Mm-hmm. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui voudraient supprimer la redevance et pas continuer d'avoir un financement à cette hauteur-là de l'audiovisuel public.
Nous le
Chacun
savons.
A son avis là-dessus. Moi, mon avis, c'est qu'il faut absolument maintenir un niveau élever le financement de l'audiovisuel public comme il l'est aujourd'hui.
Baisser la redevance pour la première fois, c'est une mesure totalement historique.
Alors,
elle est passée de 139 à 138 euros.
Oui, mais elle a été revalorisée d'une façon très importante les années précédentes. Et vous savez, pendant des années, je vous disais tout à l'heure que j'avais observé depuis longtemps et travaillé sur ces questions de l'audiovisuel public, l'audiovisuel public a souffert de deux choses, à mon avis, dans la relation avec la tutelle, qui était l'instabilité financière, de visibilité, incapacité de se projeter sur le temps moyen ou long.
Et c'est encore le cas.
Mais non, puisque je vais vous dire pourquoi.
Très bien.
Et deuxièmement, d'une intervention de la tutelle au moment difficile de restructuration des entreprises d'audiovisuel public. C'est-à-dire, en gros, on vous dit de faire quelque chose et puis quand les choses sont mises en œuvre, eh bien, on revient et on perturbe la mise en œuvre de ce qu'on vous demande quelques mois auparavant. En gros, les ministres qui viennent se mêler de l'organisation de l'audiovisuel public, alors que ça ne doit pas être le cas. Le ministre, il doit fixer avec les pouvoirs publics un cadre, des missions de service public avec le Parlement, une enveloppe budgétaire, et ensuite c'est à la direction et les organisations syndicales d'organiser le quotidien de l'entreprise. Et c'est pas au ministre, parce que si je le faisais d'ailleurs, comme certains m'ont appelé à le faire, là pour le coup, je participerais à la perturbation de la lisibilité de ce qu'est le rôle de la tutelle, qui ne doit pas, dans une entreprise indépendante, qu'est l'audiovisuel public, se mêler du quotidien de l'organisation de l'audiovisuel public. Et donc, peut-être depuis des années un défaut
ouais.
que j'ai dénoncé de perturbation des entreprises publiques par les tutelles, et deuxièmement, le ministre en l'occurrence, et deuxièmement, c'était le manque de lisibilité
alors,
financière. Là, on a une trajectoire financière
question.
Qui est claire,
alors,
qui a été votée en 2018
financière...
et qui donne 5 ans, effectivement, à 190 millions d'économies à l'issue de ces 5 ans, donc en 2022.
Monsieur le ministre, la trajectoire financière,
ouais.
elle s'arrête en 2022.
Ouais.
Là, il y a une
c'est
loi
du jamais
qui va
vu,
être...
Sonia Dullard, oui, c'est oui. du jamais vu. Chaque fois, dans
tant
le passé,
mieux.
C'était
moi, je
chaque
pense
année.
De
que...
l'avenir.
Oui,
la loi, elle va être votée. Sans qu'on sache comment sera perçue la redevance à l'avenir, sans que les deux discussions ne soient liées. Et par ailleurs, on vote une loi sans programmation, c'est-à-dire sans visibilité budgétaire. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi là se sentir en insécurité ?
Mais vous avez une visibilité comme jamais dans l'audiovisuel mm-hmm. public sur 4 ans. Mm-hmm. C'est historique. D'habitude, c'est d'année en année que on a l'épée de Damoclès de savoir ce que sera demain. Là, les choses sont claires. Et deuxièmement, pour l'avenir, on
les
a très clairement...
Les choses sont claires et pourtant les professionnels de l'animation, de la fiction, du documentaire sont très inquiets. Tout le monde se demande comment France Télévisions, passé 2022, va pouvoir protéger ses investissements dans la création. Vous l'entendez
ouais,
néanmoins.
Mais attendez, jamais rien n'est sûr, jamais on est certain de rien dans la vie. Mmh. Jamais. Demain, le ciel peut nous tomber sur la tête. Non mais franchement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est quoi ? On dit d'abord, historiquement, jamais on a eu un plan pluriannuel ouais. de financement clair sur lequel la direction, les organisations syndicales peuvent s'appuyer pour prendre les décisions mmh. d'organisation de l'audiovisuel public. Jamais il y a eu une volonté aussi forte de dire clairement, en tout cas ces dernières années, on est convaincu qu'on a besoin d'audiovisuel public.
Alors,
on veut donner à l'audiovisuel public la moyen de s'adapter en créant un groupe public. Et on dit très clairement que pour le financement, on veut maintenir un financement pérenne, spécifique pour l'audiovisuel public. Il se trouve, Sonia De Villers, oui. comme vous le savez, que cette redevance est adossée à la taxe d'habitation.
Oui.
Qu'à partir du moment où on supprime la
oui.
taxe d'habitation, il faut trouver un autre
oui.
Impôt sur lequel adosser cette
oui.
taxe.
Oui, ça fait beaucoup d'incertitudes pour
non,
l'avenir.
Non, c'est pas une incertitude. Bah... C'est certain que la taxe d'habitation va être supprimée, donc les Français
oui.
n'auront plus à le payer.
Mm.
C'est important parce que ça veut dire que les Français vont oui. payer moins d'impôts. Et c'est quand même important. Aujourd'hui, on est un pays où on paye beaucoup d'impôts. Donc c'est bien aussi de temps en temps quand les Français payent moins d'impôts. Pour autant, on a dit très clairement qu'un
ben oui. euro par an, les gens
non,
sont
non,
pas descendus dans
non,
la rue.
Non, non, mais je parle pas d'un
la
euro
baisse,
par an, je parle
d'accord.
de la taxe d'habitation
oui,
qui
d'accord.
va être supprimée. C'est
d'accord,
pas un
d'accord.
euro par an, c'est
d'accord.
plusieurs centaines d'euros.
C'est un euro par an que vous avez rendu aux Français.
Voilà. Alors, sur la question des 1 euro de la redevance, puisque
oui.
vous m'amenez sur ce terrain qui est un...
Qui est un peu, comme
non,
vous dites.
Mais
un
non,
peu
on a une trajectoire.
Glissant.
Non, non, j'ai pas
oui.
dit ça, c'est vous qui le dites. On a une trajectoire financière. Cette trajectoire
oui.
financière permet de dire voilà les besoins qu'on estime nécessaires pour mmh. l'audiovisuel public.
Mmh.
Là-dessus, il y a une redevance qui génère un produit fiscal.
Oui.
Il se trouve que ce produit fiscal en 2020 était supérieur à ce qu'on avait décidé pour financer l'audiovisuel
Absolument.
Public. Donc il y a deux solutions. Soit le surplus va dans le budget de l'État.
Oui.
Soit on le redonne aux Français.
Soit on le redonne à l'audiovisuel public qui a besoin plus que jamais d'investissement.
Oui, soit on le redonne effectivement
à l'audiovisuel public. Ce sont les arbitrages du gouvernement.
Voilà.
Ils sont là, ils sont sur la table. Il y a deux choses dont j'aimerais que nous continuions de parler avec vous,
mais
monsieur le ministre.
Oui, avec plaisir. Mais
oui.
surtout, on peut toujours dire qu'il y a de l'incertitude, que ça va être. On s'interroge pour l'avenir, etc. Il y a un moment donné
oui.
où il faut aussi, à un moment donné, avoir confiance dans les gens. Moi, j'ai dit très clairement qu'on ne toucherait pas à la trajectoire financière qui avait été décidée avant mmh. que je ne devienne ministre.
Mmh.
C'est important d'avoir de la stabilité dans les décisions.
On vous a
Ensuite,
entendu.
On a dit, et j'ai dit très clairement, et ça a été confirmé clairement par l'arbitrage qu'a fait le président de la République, qu'on ne toucherait pas à, au principe d'une fiscalité spécifique pour financer l'audiovisuel public.
On vous entend.
Et bien ça devrait rassurer tout le monde.
Eh ben, rassurez-vous. J'aimerais vous poser deux questions, parce qu'il n'y a pas que l'audiovisuel public dans la refonte qui est en gestation aujourd'hui. Il y a aussi le secteur privé. J'aimerais vous poser une question sur la publicité. J'aimerais vous poser une question sur les plateformes type Netflix que vous allez contraindre à investir en France. Une question rapide sur la publicité. Il y a quelque chose qu'on comprend mal, monsieur le ministre. Vous avez sorti des points très importants de cette refonte, de la loi. Vous allez les appliquer, les faire appliquer par décret. décrets. D'ailleurs, ils arrivent quand, ces décrets sur la publicité? Parce que tout le secteur les attend et tout le monde se demande pourquoi ils arrivent toujours pas.
Oui. Parce qu'on fait de la concertation.
Ah,
parce que
très
avant
bien.
De prendre la décision, on préfère discuter avec les acteurs concernés.
Très bien.
Ils arrivent, j'envoie au CSA, a priori demain, le projet de décret. Vous voyez, j'ai bien fait venir, vous avez une annonce. Le projet de décret au CSA, il aura quelques semaines pour donner son avis. Ensuite, on enverra au Conseil d'État et donc le décret devrait paraître en avril.
D'accord. Ces décrets portent notamment sur l'autorisation pour les chaînes de télévision de faire de la publicité géolocalisée. Selon que j'habite à Lille ou à Montpellier et que ma box indique cela, je vais pouvoir voir des pubs pour un festival, un musée, des commerçants de ma région et ce sera différent pour les téléspectateurs partout en France. C'est ce qu'on appelle la pub géolocalisée. Et vous, vous employez régulièrement, monsieur le ministre, dans vos interviews, le terme de publicité segmentée. Qu'est-ce que c'est que la publicité segmentée? De quoi on parle?
Segmenter et géolocaliser, ça veut dire de permettre d'adapter la publicité à celui qui la regarde. Comme le fait Internet. Internet, il regarde quel est votre profil marketing, éventuellement là où vous habitez, et il vous propose des publicités adaptées à qui vous êtes et à ce que vous faites.
À qui vous êtes ou à où vous habitez? Seulement
les deux,
à où vous... Les deux, mon général.
Les deux, mon général.
Non, mais c'est très important. Ça signifie que les Français vont comprendre petit à petit que la télévision est aussi dans leur salon un objet qui collecte des données sur eux, un objet qui les... Qu'est-ce qu'elle sait, ma télévision, de moi, de mon foyer, de mes enfants?
Mais d'abord,
non, mais c'est important parce qu'il y a très peu de pédagogie là-dessus.
Oui, oui.
La publicité géolocalisée, c'est simplement là où j'habite. Si c'est de la publicité adressée, segmentée en fonction de qui je suis, qui sont mes enfants, quel âge ils ont et ce qu'ils regardent à la télévision, c'est très différent.
Oui.
Et personne n'en parle.
Si.
Alors dites-nous.
C'est ce que fait tous les jours, quand vous allez sur Internet, tous les jours c'est ce qui vous arrive.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui est demandé d'ailleurs la plupart du temps par les internautes.
Ouais.
C'est que Facebook a mis en place à un moment donné un dispositif qui permettait de supprimer cette capacité à offrir des publicités adaptées à ce que sont vos goûts, et ce qu'est la façon dont vous souhaitez aller sur Internet, c'est-à-dire vous adapter à ce qui vous êtes. Eh bien, c'est tous les jours que ça se passe sur Internet. Or, la télévision ne pouvait pas le faire. Et donc, on se retrouvait en une inéquité de traitement entre les chaînes de télévision et les acteurs de l'Internet. Au détriment du financement des chaînes de télévision, qui ont un rôle majeur à jouer dans le paysage audiovisuel de nos compatriotes, et notamment qui permet de financer la création française en matière de cinéma et d'audiovisuel. Et donc là, on donne simplement la possibilité à la télévision d'avoir les mêmes outils modernes de publicité pour augmenter leur volume de publicité, pour pérenniser leur modèle économique. On a besoin de ces acteurs
français. Pourquoi est-ce que sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, chaque fois que je change de site internet, j'ai quelque chose qui demande mon consentement? J'accepte ou je n'accepte pas qu'il y ait des données collectées et des cookies, etc. Pourquoi est-ce qu'à la télévision, je vais changer de chaîne, il va falloir que j'appuie sur un bouton pour accepter ou pas accepter?
C'est les principes qui sont...
Ça pose plein de questions, vous êtes d'accord, monsieur le ministre?
Bien sûr que ça pose des questions, mais donc c'est toutes ces questions qui vont être travaillées avec les opérateurs de télécommunications, puisque ça sera au niveau des box, parce que c'est pas la télévision, il faut que ça soit une télévision connectée ou une télévision qui passe par la box, pour avoir ces données-là, justement.
Ouais.
Et c'est tout le travail qui va être conduit avec le CSA, avec les opérateurs de télécommunications, pour arriver à avoir un dispositif qui est protecteur de la vie privée de nos compatriotes.
Dispositif que vous n'avez pas encore.
Pas en détail.
Très bien.
Sachant qu'il y a une législation qui encadre cette vie privée, qui est une législation européenne et française.
Question sur les plateformes, c'est très important parce que vous venez de dévoiler officiellement le montant des investissements que vous attendez de ces acteurs qui sont des spécialistes de la fiction. Vous attendez d'eux qu'ils investissent 25% de leur chiffre d'affaires pour des plateformes type Netflix, Amazon Prime, Disney Plus qui arrivent, etc. Ma question et c'est la question que tout le monde se pose. Comment vous allez mettre cela en œuvre, monsieur le ministre? Comment vous allez faire quand des acteurs étrangers vous cacheront l'accès à leur chiffre d'affaires, à leurs résultats financiers? Comment vous allez faire quand des acteurs minimiseront leur chiffre d'affaires obtenu grâce à la série, au documentaire et au cinéma, en vous disant, vous savez, nous, l'argent, on le gagne, comme Amazon, en faisant du e-commerce et de la livraison, ou comme Apple, en vendant vend des téléphones portables. Comment vous allez faire pour les contraindre et pour aller les chercher, ces chiffres?
Eh bien, écoutez, on a des données qui sont des données qui seront de plus en plus collectées par le CSA et futur ARCOM. Oui. Vous savez qu'on a fusionné le CSA et la Hadopi, donc on va donner des moyens d'observation à l'ARCOM supplémentaire. Oui. D'autre part, il y a les données fiscales pour le chiffre d'affaires. Et puis, on est dans une réflexion qui est de se dire qu'on est dans un processus gagnant-gagnant. On veut travailler intelligemment avec les plateformes. Ouais. C'est pour ça que je suis allé à l'inauguration des locaux de Netflix. Aujourd'hui, Netflix nous dit on veut investir dans les contenus français et européens. Et ben, on va travailler avec eux pour voir comment on mesure leur investissement. On mesure l'exposition de ces contenus sur leur plateforme.
Est-ce que vous avez des moyens juridiques pour les contraindre?
On a un certain nombre de moyens juridiques aujourd'hui. Et s'il faut aller plus loin, on ira plus loin.
C'est-à-dire?
Ben, on ira à prendre les décisions progressives qui s'imposent pour que ces plateformes qui apportent un service important à nos compatriotes respectent simplement les règles françaises.
On les ferme et on les coupe ?
Ben, on prendra les dispositions progressives qui sont nécessaires le moment venu. Pour l'instant, on n'est pas dans une volonté d'être dans le conflit avec ces plateformes. On veut que ça soit plutôt gagnant-gagnant. Ce que j'espère qu'on va réussir à faire.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
On aurait bien parlé encore des heures de tout ce projet. Parce que
Vous voulez revenir demain matin ?
C'est toujours frustrant de ne pas voir la totalité de tous ces sujets. Mais on a déjà parlé
Sonia De Villers. Je vous attends depuis 3 mois, monsieur le ministre. Je vous réinvite demain matin. Vous venez ?
Demain matin, je ne peux pas, malheureusement. Mais avec grand plaisir,
une prochaine. Bonjour Ali Rebéi, très rapidement.
Qu'est-ce que le bonheur à la française? 01 45 24 7000.